Et si je vous disais que de vieilles cartes postales pouvaient nous raconter l'histoire du théâtre?
Ah, ça interpelle.
C'est le pari réussi du bulletin numéro 86 du Cartoclub Avironnais, une source un peu inattendue, peut-être, pour explorer des siècles de spectacles.
Oui, c'est vrai. Et ça fait écho, je crois, à un numéro précédent qu'ils avaient fait sur le cinéma.
Exactement.
On sent bien la porosité entre les deux arts, quoi.
D'ailleurs, on pense à Olivier Pic qui fait du théâtre et du cinéma.
Tout à fait.
Alors aujourd'hui, on plonge dans ce document fascinant, signé Monique Ducboyer. C'est vraiment une mine d'or.
Ah oui.
Oui, plein d'infos, et puis surtout, c'est richement illustré. Des gravures, des photos, et bien sûr, les fameuses cartes postales.
Et l'approche est thématique, c'est ça? Pas juste chronologique?
C'est ça. Ce qui rend la lecture, enfin l'exploration, beaucoup plus vivante, je trouve.
D'accord. Bon, bah alors notre mission aujourd'hui, c'est un peu de retracer cette évolution du théâtre, depuis ses origines religieuses au Moyen-Âge.
Jusqu'à des formes plus modernes.
Et on va essayer de dénicher quelques pépites et puis de voir la place de l'Aveyron là-dedans.
Oui, parce que le mot théâtre, comme le dit l'auteur, c'est plein de choses à la fois.
Exactement. C'est le lieu, c'est l'art lui-même, c'est le public, c'est complexe. Donc on va suivre quelques pistes. Les origines sacrées, le passage au profane, les règles, l'architecture.
Et l'Aveyron, bien sûr.
Voilà. Et quelques figures marquantes aussi.
Alors commençons par le commencement, le Moyen-Âge. On a souvent cette image un peu d'Épinal, non? Des mystères sur les parvis.
Oui, une image très 19e siècle en fait, un peu comme dans Notre-Dame de Paris de Hugo.
C'est ça, où les troupes ambulantes sur leurs tréteaux, dans les foires.
Oui, ça existait bien sûr, mais l'origine c'est encore plus ancien. C'est le drame liturgique dans les églises.
Ah! Carrément dans l'église.
Oui, oui. Dès le 11e, 12e siècle, c'était joué par des clercs, d'abord en latin, puis en langue populaire, pour illustrer Pâques, Noël, les grands moments religieux, quoi.
D'accord.
Et puis, progressivement, bah, ça sort de l'église, ça se diversifie énormément. Alors là, on a les fameux mystères.
Ah oui, les grosses productions. Hein.
C'est ça, des budgets énormes, organisés par les villes, les confréries. Ça pouvait durer des jours, avec des centaines de figurants. C'était un truc de dingue.
J'imagine l'événement.
Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi les miracles sur la vie des saints, déjà avec du spectacle, les diableries.
Les diables, déjà.
Ah oui, pour le côté un peu spectaculaire, les comiques. Et puis les farces. Alors là, très courtes, comiques, parfois assez... oser.
D'accord, pour détendre l'atmosphère.
Voilà. Sans oublier les moralités, plus symboliques, et les sotties, qui étaient carrément satiriques, critiques envers le pouvoir.
C'est fou de voir cette diversité dès le départ, entre le sacré, le divertissement, la critique.
Exactement. Ça oscille déjà entre tout ça.
Et pour se représenter à quoi ça ressemblait concrètement, le bulletin donne des exemples frappants. Je pense à cette enluminure de Jean Fouquet.
Ah oui, le martyr de Sainte-Apolline. Elle est incroyable.
C'est presque une photo, on voit tout, la scène, assez réaliste, hein, faut le dire.
Oui, c'est pas édulcoré.
Et puis l'organisation, hein, les loges pour les notables, la foule en bas, et même des bouffons sur scène.
Oui, pour occuper pendant les changements ou les moments un peu longs. C'était un vrai spectacle total.
Bien loin de l'image un peu austère qu'on pourrait avoir.
Tout à fait. Et dans le sud, en Languedoc, c'était vivant aussi, même si on a moins de textes. Le Sponsus Limousin, par exemple.
Le mystère des vierges sages et vierges folles.
C'est ça. Une parabole de l'Évangile, mais avec une fin spectaculaire, les démons qui embarquent les vierges folles. On sait même qu'il y avait une gueule d'enfer sculptée à Saint-Martial de Limoges.
Ah oui.
Carrément. Et le bulletin nous parle aussi des mystères Huerga du XVe siècle. Ce qui est intéressant, c'est ce format agenda. Ça suggère que c'était un outil de travail pour les fatistes.
Les adaptateurs, en quelque sorte.
Voilà, ceux qui remaniaient les textes. Et ça intégrait des mises en scène complexes, des mannequins, parfois, et beaucoup de chants. Peut-être l'influence des troubadours de la cour de Rodez, qui sait. Un thème qui revenait souvent, c'était le procès de paradis. Une sorte de débat théologique mis en scène. On voit comment le local s'appropriait ces grands thèmes.
Et ce théâtre religieux, on pourrait croire qu'il disparaît, mais pas du tout. Il y a des résurgences bien plus tard.
Oui, l'exemple le plus connu, c'est la Passion d'Obermurgo, en Bavière.
Ah oui, ça existe toujours, ça.
Exactement. Ça date d'un vœu fait au XVIIe siècle, après la peste. C'est joué tous les 10 ans et c'est devenu un événement mondial. Une salle immense, des milliers de spectateurs.
Et l'Aveyron a eu sa version aussi, la Passion de Conques.
Oui, à partir de 1890. Et les descriptions dans la presse de l'époque sont...
Ça devait être quelque chose.
Ah oui.
La basilique servait de décor, des décors peints impressionnants, 60 acteurs, des effets spéciaux qui fascinaient.
Comme quoi ?
Ben, une crucifixion décrite comme photographique, une ascension avec des jeux de lumière. Ça a attiré des foules énormes, il y avait même des trains spéciaux.
C'est fou !
Ça montre la puissance de ce théâtre populaire, bien après le Moyen-Âge.
Tout à fait, une vraie ferveur populaire et communautaire.
Mais bon, le théâtre, ça ne reste pas que religieux. Il y a un tournant important en 1548 à Paris.
Oui, l'interdiction des mystères publics. Ça oblige le théâtre à trouver d'autres lieux, d'autres formes. Et c'est là qu'apparaissent les premières salles permanentes, souvent dans d'anciens jeux de paume.
D'accord.
Et puis, il y a l'influence énorme de la cour, évidemment, avec Louis XIV à Versailles.
Le théâtre devient un outil politique, presque.
Complètement. Un outil de prestige, de rayonnement et aussi de contrôle des esprits. Les grandes fêtes de Versailles avec Molière, Lully, c'était du spectacle total, mêlant tous les arts, souvent en extérieur, avec des décors fastueux, une affaire d'État.
Et c'est là qu'arrive ce fameux modèle du théâtre à l'italienne qui va nous marquer pour des siècles. C'est quoi exactement ?
Alors en gros, c'est une conception de l'espace qui met l'accent sur l'illusion, la salle étant en fer à cheval ou en ovale.
Pour bien voir la scène.
Voilà. Et surtout, la scène devient une sorte de boîte magique, séparée de la salle par un cadre et bientôt par un rideau. Et là, on développe une machinerie de plus en plus complexe.
Ah oui, les fameux dessous et cintres.
Exactement. Des poulies, des contrepoids, des trappes. Tout ça pour faire apparaître, disparaître, voler les acteurs ou les décors. C'est le triomphe de la perspective, de l'illusion. Il y a même des traités techniques qui expliquent comment faire tout ça dès le XVIIe siècle.
Mais toute cette technique, ça devait être dangereux, non ? Avec le bois, les toiles, les bougies ?
Ah bah oui, c'était le grand problème, les incendies. C'était une catastrophe récurrente.
L'Opéra de Paris qui brûle plusieurs fois ?
Oui, l'Odéon, la Comédie française, c'est terrible. Le bulletin cite même une plainte à Milo, en 1901, parce qu'un projet de salle n'avait pas assez de sorties de secours ni de rideaux de fer. La sécurité, c'était un casse-tête permanent.
L'autre grand sujet, c'est la réglementation. Après la Révolution, il y a une période de liberté totale.
Oui, avec la loi Le Chapelier en 1791, tout citoyen pourra élever un théâtre public. C'est l'explosion. Mais c'est aussi un peu le bazar. Hein.
Et Napoléon remet de l'ordre.
Ah oui, sévèrement. En 1807, un décret limite drastiquement le nombre de théâtres, surtout à Paris, et il leur attribue des genres.
Chacun sa spécialité, quoi.
C'est ça. L'opéra fait de l'opéra, la comédie française du classique, les théâtres de boulevard du vaudeville. C'est une manière de contrôler la production et la concurrence. Et ça va durer longtemps.
Et on avait rond alors, comment ça se passe ? On suit ce mouvement parisien ?
Avec un certain temps de retard, on va dire. Au début du 19e siècle, le préfet se plaint. Difficile d'attirer de bonnes troupes. La qualité des acteurs de passage est variable.
Il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de salles correctes, j'imagine.
Exactement. Et puis le contrôle préfectoral était très fort. On vérifiait les programmes, on censurait.
Ah oui.
Qu'est-ce qui était censuré ?
Oh, des pièces jugées immorales ou politiquement sensibles. Tiens, une pièce sur l'affaire Fualdès était interdite en 1857. On surveillait même les mœurs des comédiens ambulants.
C'était strict. Mais le goût du théâtre, il existait quand même avant ces salles officielles, non ? Le bulletin parle du théâtre de société à Milieu.
Ah oui, ça c'est passionnant. Dès le XVIIIe siècle, à Milieu, des amateurs, nobles, bourgeois, montaient leurs propres pièces. Souvent des comédies légères, des vaudevilles avec des couplets sur l'actualité locale.
C'était ancré dans la vie sociale, en fait.
Complètement. C'était une pratique de sociabilité bien avant les théâtres professionnels.
Et du coup, la construction de vrais théâtres en dur, en Aveyron, ça a été long ? Oui, un processus assez lent. À Rodez, on a d'abord utilisé une ancienne chapelle. Puis on a reconstruit au 19e siècle. Mais ça a été compliqué, avec des débats sur l'architecture, la machinerie, et même sur l'achat d'un lustre.
Le lustre, un enjeu majeur.
Apparemment. À Millau, après un premier théâtre privé dans une ancienne magnanerie, une usine à verre à soie, les projets municipaux ont eu du mal à voir le jour.
Et finalement ?
Finalement, c'est la Maison du Peuple, au début du XXe, qui va offrir une grande salle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle servait au spectacle, mais aussi aux réunions syndicales. Ça montre bien le lien social.
D'accord.
Villefranche de Rouergue, eux, ils ont réussi à inaugurer une belle salle des fêtes en 1898, un vrai théâtre à l'italienne. Et Sainte-Afrique a eu aussi sa Maison du Peuple, très polyvalente. Théâtre amateur, concert de charité.
Emma Calvé y a chanté, c'est ça ?
Oui, mais on y faisait aussi les vaccinations. Et elle a même servi d'hôpital militaire pendant la guerre de 14. Ces lieux étaient vraiment au cœur de la vie locale.
Et au-delà des bâtiments, le théâtre jouait quel rôle dans la société aveyronnaise à cette époque ?
Plusieurs rôles, en fait. D'abord, la charité. Beaucoup de soirées étaient organisées au profit des pauvres. Ensuite, une dimension éducative et morale. La presse locale commentait les pièces. Il y avait du théâtre scolaire dans les collèges religieux.
Pour former le goût et les esprits ?
C'est ça. Et puis, c'était un lieu de culture. On organisait des conférences, on faisait venir des troupes de Paris. Le cercle Ruthéna à Rodez a beaucoup fait pour ça.
Et il y a un aspect qui semble vraiment spécifique et important en Aveyron, le lien avec la langue occitane.
Ah oui, ça c'est fondamental. Le Grel Roerga.
C'est une association.
Oui, fondée en 1921, avec des figures comme Henri Moulier et même Emma Calvé comme reine honoraire. Ils ont joué un rôle immense pour défendre et promouvoir l'Occitan, et le théâtre a été un de leurs outils principaux.
Comment ça ?
Ils ont créé des troupes locales partout, écrit et joué des pièces en occitan, publié des revues. Le théâtre est devenu un moyen essentiel de transmission de la langue et de la culture. Et ça continue aujourd'hui, d'ailleurs.
C'est une belle vitalité. Parlons maintenant de quelques échos ou figures qui dépassent un peu l'Aveyron. L'affaire Fudals, par exemple. Ce crime terrible à Rodez en 1817.
Oui.
Ça a eu une vie théâtrale complètement folle.
Ah oui, incroyable. Ça commence par une complainte populaire qui a un succès fou, puis une pièce à grand spectacle à Paris fin 19e, et encore une autre adaptation au Vieux Colombier en 1950.
Un fait divers local qui devient un mythe théâtral national, presque.
C'est un cas d'école, oui. Ça montre comment le théâtre peut s'emparer d'une histoire et la faire vivre pendant des décennies.
Et puis, impossible de ne pas parler d'Emma Calvé, l'enfant de Decazeville devenue star mondiale.
Quelle voix, quelle présence. Son interprétation de Carmen à l'Opéra Comique, c'était...
légendaire. Elle l'a chantée plus de 3000 fois, partout dans le monde.
Incroyable.
Mais elle n'a jamais oublié l'Aveyron. Elle revenait souvent, elle donnait des concerts de bienfaisance, surtout pendant la guerre de 14. Une femme flamboyante, mais aussi très généreuse.
Une vraie diva, mais avec le cœur sur la main.
Et pour finir, une figure plus complexe peut-être, Antonin Artaud.
Oui. Son passage à l'asile de Rodez pendant la guerre, c'est un moment sombre. Mais son importance pour le théâtre du XXe siècle est colossale.
Il faut le rappeler.
Avant Rodez, il avait déjà créé le théâtre Alfred Jarry. Et surtout, il a écrit Le théâtre et son double. C'est le livre qui a théorisé le théâtre de la cruauté.
Qu'est-ce que c'était ce théâtre de la cruauté ?
En gros, Artaud voulait en finir avec un théâtre basé que sur le texte, la psychologie. Lui, il voulait un théâtre total, qui frappe les sens.
Plus physique.
Oui, qui utilise le cri, le geste, la lumière, le son, pour atteindre le spectateur à un niveau plus profond, presque viscéral. C'était révolutionnaire.
Et ça a eu un impact ?
Énorme. Même si ces idées étaient parfois difficiles à appliquer, elles ont influencé toute la mise en scène moderne. Elles continuent d'inspirer aujourd'hui.
Quel parcours quand même ! Des mystères dans les églises médiévales, aux théories d'Artaud, en passant par Versailles, les salles à l'italienne et toute cette vie foisonnante en Aveyron, en français comme en occitan.
C'est ça.
Cette exploration, grâce au travail formidable du Carto Club Aveyronnais, nous montre vraiment un art vivant, quoi. Toujours en train de changer, de s'adapter.
Oui, toujours en prise avec son temps. Entre le sacré, le profane, l'élite et le populaire, la tradition et l'innovation.
C'est ça.
Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Quand on voit toutes ces formes que le théâtre a prises, pour prier, pour rire, pour éduquer, pour critiquer, pour rassembler, pour défendre une langue, on peut se demander finalement, quel est ce besoin humain fondamental que le théâtre semble combler ? Pourquoi il traverse les siècles comme ça, en se réinventant sans cesse ?
C'est une excellente question pour terminer. Elle souligne bien la force et la nécessité peut-être de cet art. Et l'importance aussi de ces initiatives locales qui gardent la mémoire de tout ça. Merci beaucoup pour cette plongée passionnante.
Merci à vous.